Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Lajoie, Colette Lajoie, juge des enfants. Et c'est un grand plaisir de vous accueillir parce qu'on a toujours un peu de mal à ce que des juges des enfants nous rejoignent. Non pas qu'ils ne veulent pas et non pas qu'ils ne soient pas intéressés par nos moments de réflexion, mais parce que ils sont effectivement débordés et touchés coulés. Exactement. Donc... je vous présente Madame Lajoie. Et sur la question du pouvoir d'agir, Monsieur Lafort l'a indiqué tout à l'heure, c'est quand même le juge qui décide de l'intrusion que nous effectuerons à l'intérieur des familles, enfin à l'intérieur de famille, à l'intérieur des domiciles des familles. Alors donc, le pouvoir des juges est quand même assez puissant. Et donc, la question, c'est aussi quelle est la place laissée aux familles, leur expression, et comment la parole de ces personnes est-elle prise en compte, et puis comment est-ce qu'il y a des changements à l'œuvre depuis quelque temps. Merci, Madame Lajoie.
Merci de m'avoir invitée. Bonjour à tous et à toutes. Je ne pensais pas avoir un aéropage aussi important. Voilà. En préambule, et ça n'engage que moi, je suis convaincue que vous êtes des acteurs indissociables de la protection de l'enfance. Et que vous n'êtes pas assez...
Oui, c'est content d'être
voilà. Et que pour moi, vous n'êtes pas assez sollicités. Voilà. Et que pour moi, mais je pense que je ne suis pas marginale parmi mes collègues, que vous êtes aussi important au même titre que les autres partenaires qui contribuent au plus près de la réalité familiale et de la protection de l'enfance. Ça, c'est dit. Donc moi, je suis juge pour enfants depuis 88. J'ai passé le concours de la magistrature pour être juge des enfants. Les hasards des rencontres et des pérégrinations géographiques ont fait que j'ai occupé d'autres fonctions, mais jamais au parquet. Pourtant, j'ai beaucoup de respect pour les parquetiers. Et ce que je peux vous dire, c'est que depuis 1988, la fonction de juge des enfants a beaucoup évolué, les familles ont beaucoup évolué. Et si je peux me permettre, docteur, je partage un peu ce que vous avez dit au niveau des différents leviers, au niveau de l'analyse qui est faite en droit. La mesure donc, d'aide à la gestion du budget familial, eh bien, avant tout, c'est une mesure de protection. Protection un peu particulière, puisque nous pouvons intervenir non seulement pour l'enfant déjà né, mais également celui qui va naître, ce qui est une particularité de l'intervention du juge des enfants. Donc le juge des enfants a plusieurs casquettes. La protection de l'enfance au titre de l'assistance éducative depuis 1958, et avant ça, l'ordonnance de 45 à enfance délinquante qui a été bouleversée à différents titres par le code de justice des mineurs. Donc ça, c'est nos plus grandes casquettes. Et nous avons perdu dans la réalité une autre casquette qui pourtant était très intéressante, qui n'a pas disparu du code, mais qui est l'aide jeune majeure, 18-21 ans, qui n'existe plus en assistance éducative, faute de financement de la protection judiciaire de la jeunesse. Au même titre que nous n'avons plus accès à ce qu'on appelait le débroussaillage civil, c'est-à-dire qu'une famille, un enfant, un adolescent, se pointer au tribunal. Moi, j'ai connu ça en 88, quand j'ai débuté. Une famille venait se plaindre, ou un enfant, disant « je ne peux pas rentrer chez moi », ou « aidez-moi, mon mari me bat », etc. Les vifs n'étaient pas à l'époque à la mode, entre guillemets. Et donc, il y avait, une première évaluation faite par l'éducateur de la permanence, qui s'appelait à l'époque le service éducatif auprès du tribunal. Et quand on change les acronymes, c'est jamais une bonne chose. J'ai l'habitude de parler franchement, je tiens à vous le dire. Donc ça permettait également de voir même des familles qui arrivaient en disant « j'ai pas d'argent », etc. L'éducateur permanence faisait un rapide débriefing, prenait contact avec l'assistante sociale de secteur, l'école sur la problématique, et venait voir le juge des enfants en lui indiquant « voilà, il y a cette famille, il faudrait l'aider, il faudrait la recevoir », etc. Ou au contraire, on a rencontré telle ou telle personne et on l'a renvoyée vers l'assistante sociale ou vers le collège ou je ne sais trop quoi. Donc ça, c'est des instruments que le juge des enfants n'a plus. Donc nous, au niveau de l'aide à la gestion du budget familial, notre domaine d'intervention, c'est l'article 375-9-1 du Code civil, donc qui limite notre champ d'action d'application aux prestations familiales et également aux revenus de solidarité active, autrement dit RSA. Certaines donc prestations, et vous le savez encore mieux que moi, peuvent être perçues avant la naissance de l'enfant, du moment que les déclarations ont été faites en temps utile, voire même au-delà de la majorité, puisque les familles peuvent percevoir, et vous le savez, des allocations et autres prestations auxquelles les enfants ouvrent droit, y compris pour les jeunes majeurs, mais jusqu'à 20 ans. Notre champ de compétence, donc l'article 375-9-1 du Code civil, évoque des prestations qui ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants. On parle des enfants, on ne parle pas du mineur. Mineur, c'est 0-18. Là, on est beaucoup plus vaste, je dirais, c'est 0-20 ans. Et c'est un renvoi, bien sûr, au domaine de compétences naturelles du juge des enfants, les articles 375 et suivants, puisque nous sommes les compétents dans le domaine de l'enfant en danger actuel immédiat. Danger qui peut être de différentes manières. Le danger, je dirais, matériel, moral, psychologique. Un gamin à qui on va dire toute la journée, t'es un bon à rien, t'as rien à faire sur cette terre. L'enfant qui ne va pas avoir accès à l'extérieur, à la socialisation, à l'école, par exemple. L'enfant qui n'aura pas à manger, l'enfant du placard, etc., etc. Il est bien entendu que la mesure d'aide à la gestion du budget familial ne permet pas le placement sous tutelle. Par contre, le travail que vous pouvez mener à travers une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial peut permettre d'enclencher d'autres mesures plus protectrices de l'adulte, sauvegarde, tutelle, curatelle, etc., etc. Mesures qui ont pu être proposées à un moment donné par les MDS ou autres et qui, je dirais, n'ont jamais pu faire leur chemin pour des raisons X, Y. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que vous êtes un maillon essentiel. Donc les différentes prestations, vous les connaissez comme moi, c'est les prestations liées à l'accueil du jeune enfant, les allocations familiales à partir du deuxième enfant, à l'exception de l'outre-mer, puisque c'est à partir du premier enfant, les compléments familiaux, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'allocation de soutien familial, l'allocation journalière de présence parentale, j'ai révisé, hein. L'allocation de rentrée scolaire, les allocations logement diverses et variées, et donc le RSA. Donc normalement, je dis bien normalement, la mesure d'aide à la gestion du budget familial doit être subsidiaire. Puisque normalement, l'intervention du juge des enfants ne devrait avoir lieu qu'après échec de toutes les mesures d'accompagnement administratif en économie sociale et familiale. Et c'est bien ce que prévoit l'article L222-3 du Code de l'action sociale et des familles. Dans la pratique, c'est pas tout à fait ça.
Heureusement.
Donc en fait, tout ce qui est mesures administratives, et vous le savez comme moi, c'est des mesures contractualisées entre une famille et un service, sous l'égide du président du Conseil général, du Conseil départemental, pardon, puisque le président du Conseil départemental et le chef d'orchestre de la protection de l'enfant et des familles. L'intervention judiciaire devant rester une parenthèse dans la vie des enfants et des familles. Je pense que vous venez de différents départements, il y a différentes réalités. Nous, ici en Gironde, la politique de l'enfance est ce qu'elle est. Elle est en pleine refonte, en restructuration du schéma départemental qui est obsolète depuis plusieurs années. Donc, quand il y a intervention judiciaire, très souvent, il y a retrait de l'action administrative, ce qui n'est pas normal. Mais là aussi, je crois qu'il y a un problème de moyens ou de volonté. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait eu une vieille décision, je n'étais même pas au courant, la Cour de cassation qui avait censuré une cour d'appel, c'est il n'y a pas très longtemps, c'est il y a 13 ans, 2010, en indiquant que du moment qu'il n'avait pas été prouvé que la mesure administrative était insuffisante ou inadaptée, un magistrat ne pouvait pas ordonner une mesure d'aide à la gestion du budget familial judiciairement. Je pense que c'est la seule décision de la Cour de cassation. Voilà. Puisque, en règle générale, il y a fort peu d'appels sur les décisions prises par un juge des enfants en matière de mesure d'aide à la gestion du budget familial. Je pense que ça s'explique de deux manières. Soit l'examen des dossiers en cour d'appel est très long, Et la mayonnaise a pris avec le délégué à la gestion du budget familial, qui a posé des actes concrets et qui a pu faire avancer certaines choses. Voilà. Et que les mots qui avaient été prononcés ou entendus dans le bureau du juge des enfants ont pris une autre connotation en voyant le travail réel qui a été fait. Mais ça n'engage que. Ce principe de subsidiarité avait été rappelé par la loi du 7 février 2022, qui consisterait donc en une multiplicité d'interventions sur le plan administratif et contractualisé, l'aide ménagère, la TISF, la conseillère en économie sociale et familiale et autres. Voilà. Que vous dire ? Moi, dans ma pratique professionnelle, qui est un peu marginale, nous avons tous connu des familles qui sautent de département en département pour fuir les interventions sociales, judiciaires, y compris des placements. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises, et ça sera à refaire, je le referai, d'être saisie d'une famille ayant déjà fait 3-4 départements où on me demande une mesure judiciaire d'investigation éducative ou une AMO ou je ne sais trop quoi, alors qu'on n'a pas la personne sous la main, puisque dès qu'elle est avertie qu'il y a un œil extra-familial, je dirais, qui intervient, prend la poudre d'escampette. Eh bien, je peux vous dire qu'en se saisissant d'office d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial, qui permet, lorsqu'une personne, quel que soit le département où elle est, de demander des subsides, un hébergement, etc., elle a vite fait de rappliquer, forcée ou contrainte. Et là, je pense que en termes de protection de l'enfance, c'est vraiment très efficace. Voilà. Mais ça n'engage que moi. Donc nous avons, au niveau de l'intervention du juge des enfants, donc les prestations sociales, familiales et autres allocations auxquelles les enfants ouvrent droit, eh bien, ne doivent pas être employées dans l'intérêt donc, de cet enfant, dans ses besoins, je dirais, fondamentaux. La santé, j'ai besoin d'un toit, j'ai besoin du chauffage, j'ai besoin de vêtements, j'ai besoin pour bien grandir d'avoir accès à une certaine socialisation, d'être scolarisé, voilà. Le béaba, je dirais, de l'intérêt collectif. Donc le mauvais emploi de ces différentes prestations et allocations, elle prend des visages, je dirais, différents, et vous avez certainement beaucoup plus d'exemples que moi. Ça peut être acheter des achats, le dernier modèle de la télé, le dernier iPhone, etc., alors qu'il n'y aura rien à manger, par exemple. Ça peut être des achats d'alcool, les jeux de hasard, la drogue. Ça peut être des utilisations inadaptées de prestations, des achats qui sont faits faramineux, voilà, très onéreux pour les enfants, alors que le quotidien n'est pas assuré. Ça peut être des parents débordés, des parents qui peuvent être également soumis à l'autoritarisme d'ado ou de pré-ado, qui exige les 5 euros ou les 10 euros pour aller au McDo, KFC, et j'en passe des meilleurs, pour avoir le dernier vêtement à la mode, par exemple. Ça peut être des parents négligents qui laissent courir pour des raisons XY, suite ou non à des accidents de vie, auxquels personne n'est à l'abri, et qui vont... laisser à l'abandon le paiement des factures, du loyer et autres, et un beau jour, l'huissier va se pointer. Ça peut être également des gens qui sont limités dans la gestion administrative, budgétaire, qui ne s'y retrouvent pas, voilà, et qui empilent. Voilà. Donc, cette mesure, elle a vraiment toute sa place, en prenant en compte donc, l'intérêt des enfants de façon adaptée. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, elle ne peut en aucun cas remplacer une mesure de protection adulte. Donc, cette mesure donc, d'aide à la gestion du budget familial, elle peut être prise comme unique mesure par le juge des enfants. Elle peut être adossée à une mesure d'assistance éducative existante déjà. Style mesure judiciaire d'investigation éducative, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Une mesure d'AMO, où on va déjà avoir cerné les problèmes, une mesure de placement, donc ou placement dans un foyer, une MEX, un internat scolaire également. Ça peut être également un placement éducatif à domicile qui va s'exercer à partir du lieu où vivent les enfants. Et autres possibilités, voire même adossé à une mesure ou une condamnation, je dirais plutôt, ou à des mesures présententielles prises dans le cadre de l'enfance délinquante. Donc, dans tous les cas, sera compétent le juge des enfants du lieu de la résidence familiale ou de l'attributaire des allocations familiales. Je pense à une situation où une famille a été désignée tiers digne de confiance et se trouve pas, je dirais, au même endroit géographique que les parents, mais ce tiers digne de confiance auquel je pense avait lui-même une mesure d'aide à la gestion du budget familial qui a été étendue aux prestations auxquelles ouvrait droit l'enfant qui leur a été confié. Voilà. Donc les règles de saisine du juge des enfants, ben, elles sont, je dirais, classiques. Le juge des enfants peut être saisi par un des représentants légaux du mineur, par normalement l'allocataire ou l'attributaire des prestations sociales. Je pense que c'est très rare. Ou ça peut être dans le cas d'une extension de mesure, ouais, par exemple. Le procureur de la République, donc, qui est à 99% celui qui saisit le juge des enfants en assistance éducative et automatiquement au pénal, puisque sans requête du parquet au pénal, il n'y a pas de dossier au pénal. Alors j'ai trouvé également que ça pouvait être le maire de la commune du résidence du mineur, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations sociales. Personnellement, je ne l'ai jamais vu. Voilà. Mais je pense que ça peut exister via les CCAS, par exemple. Ouais, voilà. Ouais. Mais dans ma pratique professionnelle, j'ai jamais connu ce cas de figure. Et le juge des enfants, comme dans toutes les mesures de protection, peut se saisir à titre exceptionnel, tout dépend ce qu'on attend d'à titre exceptionnel, d'office. Donc, comme dans toute procédure éducative, il y a des avis d'ouverture qui sont donnés aux représentants légaux de l'enfant. On informe également la personne qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat. L'assistance d'un avocat est, je dirais, de plus en plus courante en matière d'assistance éducative. Et de plus en plus souvent, les personnes viennent consulter à votre audience leur dossier. Voilà. Donc, la consultation du dossier, bien, elle se fait, je dirais... Alors, il n'y a pas de texte qui le prévoit formellement. À la limite, une personne pourrait demander tous les jours à consulter son dossier. Je ne vois pas comment on pourrait s'y opposer. Puisqu'il n'est pas prévu que la consultation du dossier se fait uniquement avant une audience ou après une audience. Donc, dans tous les cas, nous, ici à Bordeaux, les gens ont cet avis d'ouverture, que ce soit en assistance éducative classique ou en mesure d'aide à la gestion du budget familial. Donc, ils appellent le tribunal en indiquant, voilà, je voudrais venir consulter mon dossier, j'ai une audience à telle date, et on lui donne une date d'audience. La consultation du dossier se fait sous la surveillance d'un agent administratif ou d'un greffier, selon les cas. En aucun cas, la famille ne peut avoir copie du dossier. La seule personne qui peut en avoir copie, c'est l'avocat désigné. Et la limite, c'est que l'avocat ne peut pas produire ses documents dans le cadre d'autres instances. Donc ça veut dire concrètement que si l'avocat, en parallèle, a initié une procédure devant le juge aux affaires familiales, il ne peut en aucun cas produire les éléments de dossier venant du juge des enfants. Par contre, le juge aux affaires familiales pourra demander au juge des enfants la production de son dossier. Voilà. Alors, si je suis rébarbative, vous le dites, j'ai pas d'ego, je passe à autre chose. Donc, comme en matière d'assistance éducative classique, le juge des enfants, en protection de l'enfant ou d'un des parents, peut retirer certaines pièces du dossier. Mais à ce moment-là, nous rendons une ordonnance qui est susceptible d'appel. Alors, on ne va pas marquer ce qui est marqué dans le dossier, hein, mais on va marquer rapport dû, par exemple. Le dossier, bien sûr, il pourra être consulté par le délégué chargé de l'exercice de la mesure d'aide à la gestion du budget familial qui sera ordonné. Au même titre, moi, si on me demande la consultation par ce professionnel du dossier d'assistance éducative, je l'autoriserai sans aucune difficulté, parce qu'il me paraît bon d'avoir la globalité de la situation d'une famille. Donc, c'est la seule mesure, la mesure d'aide à la gestion du budget familial, contrairement à l'assistance éducative pure, nous n'avons pas les moyens d'ordonner une mesure judiciaire d'investigation éducative pour voir si elle est appropriée. Par contre, dans le cadre d'un dossier d'assistance éducative, la mesure ordonnée, c'est-à-dire l'enquête sociale et bilan psychologique, va s'intéresser à l'aspect financier. Et il arrive quelquefois qu'au cours des mesures judiciaires d'investigation éducative, ordonnées aussi bien en assistance éducative qu'au pénal, que le service alerte le juge des enfants en disant « là, il y a un gros problème, il y a un risque d'expulsion, la famille n'a pas à manger ou c'est n'importe quoi, il y a besoin d'une mesure d'aide à la gestion du budget familial ». Encore faudrait-il, mais je crois quand même qu'il y en a certains qui le connaissent, mais ce n'est pas rare. Ou au contraire, au juge des enfants, en apprenant ceci, de lui-même de se saisir d'office. Et à ce moment-là, nous calons l'échéance sur le dépôt du rapport. Donc, ce qui veut dire que ce que nous prenons, c'est directement des décisions au fond, donc un jugement. La mesure, elle est prise pour 2 ans, renouvelable, mais le premier délai, c'est 2 ans. Nous pouvons bien sûr mettre un délai moindre, et comme toute décision du juge des enfants, elle est révisable et modifiable à tout moment. Et ça, je crois que c'est important aussi de le savoir. Oui, bien sûr. Maximum. Mais elle est... Non. La MJ-AGBF, le délai prévu par les textes est de 2 ans, c'est l'article 375-9-1. Mais bien sûr, elle peut être renouvelée par décision motivée. Voilà. Après, se posera, et ça n'engage que moi, qu'est-ce que ça veut dire une MJ-AGBF qui dure depuis 10 ans? On peut peut-être passer à autre chose. Voilà, ça se réfléchit et ça se parle.
Ça se parle,
voilà. Que vous dire? Alors, comme toutes les décisions du juge des enfants, cette décision, c'est les textes, doit être notifiée dans les 8 jours. Vous savez, comme moi, je pense que dans tous vos départements, c'est pareil. Nous avons du mal à tenir les délais. Moi, je sais qu'à l'heure actuelle, je motive mes décisions le jour même ou le lendemain, au plus tard. Et pour des problèmes de secrétariat, les décisions peuvent partir que dans le mois qui suit. Voilà. Ah non, je trouve ça catastrophique. Personnellement, je trouve ça catastrophique, en sachant notamment que quand c'est une mesure de renouvellement d'aide à la gestion du budget familial, s'il y a trop d'écart, il y a un risque que les prestations soient redonnées à la famille.
Et qu'on reparte sur le départ.
Et c'est en ce sens-là que je dis que c'est catastrophique. Voilà. C'est catastrophique.
Bonjour.
Bonjour.
Dans le département du Doubs, on a travaillé avec les juges des enfants pour qu'à la sortie d'audience de renouvellement d'MJ-AGBF, la déléguée aux prestations familiales reçoive en fait une attestation de la part du tribunal pour enfants, une attestation de renouvellement de la mesure qui nous permet en fait de la délivrer à la CAF pour qu'au moins il n'y ait pas de carence justement dans le versement des prestations familiales auprès D'accord. de notre service. Et donc ça fonctionne. La CAF en fait proroge la mesure et puis dans l'attente du jugement, puisque effectivement vous dites que c'est déplorable dans votre département ce délai, mais il existe en fait dans d'autres départements, même sur des délais beaucoup plus importants. Donc en tout cas la remise de cette attestation permet au moins en fait la continuité du versement des prestations familiales au service positionné.
D'accord. Et il n'y a jamais aucune difficulté par rapport à des appels?
Non. En tout cas, dans le cadre des renouvellements, en général, en fait, en tout cas dans notre département, les D'accord. familles sont globalement en fait favorables au renouvellement.
D'accord. Et c'est le greffier d'audience qui remet?
Oui. Oui, le greffier ou le juge des enfants, en fait, en fonction des carences des greffiers dans certains tribunaux.
Dans mon département, ça existe également, cette attestation. Là, là-haut, là. Ça existe également et le modèle d'attestation fait référence au texte de loi pour que la CAF puisse le valider comme une pièce suffisante à la reconduite de la mesure. Mais c'est une attestation qui dit qu'en date de l'audience du jour qui s'est tenue dans le cabinet de madame, enfin, tout est. C'est voilà, une attestation qui vaut, et comme c'est tamponné par, et signé par le greffier et la juge, ça vaut preuve aux yeux de la CAF.
D'accord, je veux bien voir ce qu'il en est. Alors, je vais dire un truc qui n'est pas correct, hein, mais vous le savez tous. Quand il y a des renouvellements qui se font sans audience, ça se passe comment ?
Ah, il n'y en a pas chez nous. Il y a toujours une audience chez nous.
Ah, à Épinal, il y a toujours une audience. Qui dit mieux ?
Alors, à Bordeaux, il n'y a pas toujours d'audience. Nous avons chacune, nous sommes que des femmes, nous sommes 10. Nous avons plus de 600 dossiers en assistance éducative, plus de 200 dossiers au pénal. Et nous avons, je ne sais plus combien de dossiers, au moins une petite centaine en exécution des peines en tant que juge d'application des peines. Et nous avons un service correctionnel à donner au tribunal qui est particulièrement épuisant. Mais je suis preneuse de ce qui a été mis en place. Mais c'est vrai, comme vous le dites à juste titre, c'est du bidouillage. On bidouille tous. D'accord. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des audiences qui peuvent se tenir en même temps que des audiences d'assistance éducative, mais qui donneront lieu à deux procès-verbaux différents, en sachant que l'un des parents des enfants peut ne pas être invité à l'audience d'aide à la gestion du budget familial, puisque le couple est séparé, par exemple. Donc là, il n'aura pas connaissance de la décision. Voilà. Et les enfants n'assistent pas à cette audience puisqu'ils ne sont pas partie prenante. Voilà. Donc ça peut... Je dirais que la première audience peut être chaude. Voilà. Parce que ça va être toujours d'où vous savez que ça ne marche pas, comment vous le savez. C'est ma vie privée, je fais ce que je veux. Mes enfants, ils ont tout ce qu'ils veulent ou tout ce qu'ils ont besoin. Et après, en rappelant, moi, ce que je dis toujours aux gens, en règle générale, quand on vient chez le juge des enfants, c'est qu'on est un peu dysfonctionnant par rapport aux obligations parentales. Ou au niveau des droits parentaux, ça va plutôt bien, mais au niveau de l'obligation et des contrepoids ou contreparties, et d'entendre que l'enfant, c'est une personne à part entière, ça devient plus compliqué. Et je dirais que le levier, alors tout dépend ce qu'il en est, mais pourquoi votre fils, par exemple, n'a pas d'activité scolaire? Pourquoi il ne part jamais en colonie de vacances? Pourquoi il n'est pas en centre aéré? Pourquoi il n'a pas ses fournitures scolaires? Et bien, en creusant, on voit un peu la réalité familiale. Et quand c'est présenté comme une aide, et après que l'aide annoncée est, je dirais, suivie des faits et d'actes dans le quotidien, je pense que la mesure, elle passe bien. Elle passe bien, voire même permet de réintroduire une mesure éducative. Voilà. Mais pour moi, ce qui me paraît essentiel, c'est que tous les services qui interviennent communiquent entre eux. Communiquent entre eux. Et ça, c'est un vœu pieux pour certains. Voilà. Et je crois qu'il est très important aussi, et ça, le recours à l'interprète, parce que moi, dans mon secteur, il y a de plus en plus de mamans, ou de sans focaliser les nationalités, hein. Mais j'ai beaucoup de Bulgares, de Roumains, qui n'ont pas la maîtrise du français. C'est une population qui est très volatile, versatile. Le calendrier des vacances scolaires, ils s'assoient dessus. L'obligation scolaire tous les jours, ils s'assoient dessus. Et donc, rappeler un peu, ben, on est en France, il y a telle et telle règle, etc. Et se faire comprendre, c'est compliqué. Voilà. Donc après, je pense que le budget de la justice étant ce qu'il est, on ne peut pas nommer, nous, des interprètes, comme on peut le faire à l'instruction pour accompagner des expertises psychologiques, psychiatriques, etc. L'interprète sera présent de toute façon dans le bureau du juge des enfants. Voilà. Mais je pense qu'au quotidien, ça peut être très, très compliqué. Voilà, ça peut être très compliqué. Mais nous avons aussi toute cette population à prendre en considération. Voilà. Voilà, mais vraiment, je le répète, cette mesure, elle a vraiment toute son utilité. Voilà. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire de vous rapprocher des assistantes sociales de terrain. Voilà. Et je pense que c'est ce que vous faites ici aussi. Mais je crois que sans arrêt, il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Voilà.
Bonjour, excusez-moi. Juste une question. Nous, on a constaté au niveau de notre secteur une baisse significative des mesures d'AGBF. Donc, il me semble que c'est partagé. Donc, comment ça pourrait s'expliquer ? Parce que nous, on s'interroge. Donc, a priori, ce n'est pas lié à la qualité de notre travail, puisque la qualité semble plutôt appréciée, enfin, c'est plutôt positif. Mais du coup, on s'interroge. Donc, on se pose la question aussi des manques de moyens à votre niveau. On ne sait pas trop l'expliquer.
Je ne pense pas que ce soit au niveau des juges des enfants, hein, ni du procureur. Dans les signalements, c'est très rare, mais vraiment très rare, qu'il y ait une demande de mesures d'aide à la gestion du budget familial. C'est vraiment très, très rare. Et alors après, si la demande est faite au procureur de la République, il y aura forcément une requête devant le juge des enfants. Donc, je peux pas répondre davantage, mais je reste persuadée de la méconnaissance de l'utilité de la mesure.
Bonjour. Là.
Bonjour.
Là-bas. Bonjour. Je me permets de reprendre. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris à un moment donné. Vous parliez du fait que la prévention n'était pas particulièrement utilisée, en tout cas peut-être sur le secteur actuel. Oui. J'ai cru entendre que c'était « et tant mieux ». Je ne suis pas sûre que c'est ce que vous vouliez dire, je ne sais pas. Oui. En tout cas...
Au niveau de la prévention, moi j'attends pas de savoir s'il y a eu de la prévention ou pas au niveau de la mesure d'aide à la gestion du budget familial.
Parce que pour rebondir sur ça justement, et pour rebondir sur le thème de la journée, j'aimerais poser comme question comment rendre le pouvoir d'agir quand même la prévention est mise de côté aux personnes, puisque le pouvoir d'agir commencerait par ça, logiquement. Voilà, c'était le retour sur ça.
Alors, après, moi, je n'ai pas l'information de quelle prévention a été faite, quelle orientation.
Parce qu'effectivement, quand on fait relais auprès des assistantes sociales de secteur, notamment, en tout cas, ce qui est idéal de proposer en premier lieu, c'est l'AESF et effectivement la MJGBF.
Bien sûr.
Nous, on peut voir aussi qu'en termes d'AESF, c'est compliqué que ce côté préventif, en tout cas, et ce côté pouvoir d'agir soit laissé aux familles, aux parents, avant même d'engendrer quelque chose de l'ordre du judiciaire.
Bah, tout dépend, je dirais, où en est la situation financière de la famille et la situation éducative. Alors, après, je pense que tous les secteurs ne sont pas outillés pareil. En termes de prévention. Mais je me trompe peut-être.
Oui, pardon. Oui, mais c'est ça qui pose peut-être question. Alors là, on ne peut pas en répondre là aujourd'hui, mais ça pose question, d'accord, cette question de la prévention et d'accord, de la place qu'on laisse aux familles.
Mais je pense qu'il y a exactement la même chose sur un registre éducatif. Est-ce que c'est des départements où il y a de l'AED, de l'OED, du PEAD, de l'AP?
Je peux me permettre de compléter la réponse. C'est que l'AESF, quand elle a été créée avec la loi de 2007, en fait, il n'y a pas eu de financement qui a été prévu par l'État.
Oui, c'est ça.
Donc, il y a des départements qui se sont saisis de cette mesure et qui donc ont créé, mis en place l'AESF, mais tous les départements en France n'ont pas mis en place l'AESF. Donc, du coup, forcément, il ne peut pas y avoir de ESF sur certains départements. Par ailleurs, effectivement, par rapport à la décision de la Cour de cassation que vous avez annoncée tout à l'heure, il y a aussi peut-être aussi une incohérence, c'est que les parents eux-mêmes peuvent demander la GBF. Hein, et donc, pour autant, on ne leur demande pas s'il y a de l'ESF mise en place avant. Donc, voilà, donc ça fait partie aussi des incohérences par rapport à la mise en place de la mesure.
Enfin, c'est très rare que la famille demande la GBF. Ça peut arriver peut-être.
Moi, dans le service, effectivement, dans lequel j'intervenais auparavant, on pouvait recevoir, avant la mise en place de la mesure, des familles qui nous étaient adressées par les services sociaux, et on leur expliquait ce qu'était la MJGBF, et ils faisaient avec la science sociale un courrier au juge pour demander la mise en place de la mesure. Et c'est prévu dans les textes.
Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si la prévention pouvait réellement faire son œuvre, il n'y aurait pas besoin de judiciariser certaines choses. Parce qu'il ne faut pas oublier à l'heure actuelle quelque chose, il y a une banalisation de l'intervention judiciaire. Dans mon département... Dans mon département, à l'heure actuelle, il n'y a plus de PEAD administratifs, et même des PEAD administratifs qui marchent. On demande aux familles d'interpeller le juge des enfants pour qu'il soit judiciarisé, autrement tout s'arrête.
Voilà. J'ai une question pratico-pratique. Qu'est-ce qui fait que... C'est ici ? Là ? Ah, okay. C'est ici. On est de... que ça soit une mesure d'assistance éducative ou une mesure MAJGBF, on est sur deux entités, nous, sur notre département, différentes au niveau du numéro de dossier. C'est-à-dire que oui. Si le juge... Non, mais si le juge n'est pas vigilant à nous convoquer au même temps qu'une mesure d'assistance éducative... Nous, services, comme on n'est pas lié au département, on n'a pas forcément l'information que vous pouvez, en tant que juge des enfants, modifier des droits à l'intention des parents dont les enfants sont placés ou faire que les allocations familiales soient versées aux services gardiens et plus effectivement aux parents. Et c'est une difficulté qu'on constate, nous, cette absence de lien entre nos services et le département parce qu'on n'est pas sous la coupe du département. Et que si, effectivement, il n'y a pas cette information qui se transmet, aussi on n'est pas convoqué au même temps que l'assistance éducative pour entendre les modifications que vous apportez dans l'intérêt des enfants, on n'a pas cette information-là, en fait. Donc, je ne sais pas comment vous faites ici, mais nous, c'est une difficulté qu'on a en Côte d'Or. C'est-à-dire que si on n'est pas convoqué au même temps que l'assistance éducative, il y a des informations qu'on n'a pas sur des attendus que vous mettez en place auprès des parents, et que nous, on n'a pas forcément le pendant.
D'accord. Alors, je dirais qu'on est à l'ère de l'informatique et les dossiers, ils sont liés. Voilà. Et il suffit de marquer sur la cote des deux dossiers. Alors, vous me direz, il suffit que de faire le parallèle avec tel et tel dossier. Mais le béaba pour un juge en termes de gestion, c'est de mettre les mêmes échéances et de penser exactement à convoquer tous les intervenants. Mais je vais vous donner aussi un exemple tout à fait récent. J'ai convoqué il n'y a pas longtemps une famille où un des enfants, outre l'assistance éducative, outre la mesure d'aide à la gestion du budget familial qu'il y a dans cette famille, a également une mesure pénale. Eh bien, j'ai convoqué aussi la PJJ pour ne pas la nommer et on m'a dit pourquoi faire. Voilà. Mais il est évident de toute façon que si le juge en renouvellement de placement, par exemple, ou s'il décide un placement, ne laisse pas les allocations à la famille, votre mandat va s'arrêter, ce qui est illogique. Parce qu'une mesure de placement n'empêche pas qu'on laisse les prestations et autres allocations auxquelles les enfants ouvrent droit à la famille, notamment pour leur permettre de reprendre une autre place, puisque les parents vivent surtout les placements comme les annulants dans toute autorité parentale, et de garder un lien, ou même favoriser le maintien des droits de visite ou autre. Donc je crois que c'est à voir avec vos juges des enfants. D'accord. Donc, d'où ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tous les partenaires correspondent entre eux.
Oui, voilà. Il y a encore du boulot.
Mais il est essentiel d'attirer l'attention de vos juges sur le fait de caler les mêmes échéances.
Non, mais il faut parler dans le micro. Hein. Je suis désolée, mais si on veut que tout le monde entende, il faut parler dans le micro.
Alors moi, j'ai un micro, mais j'arrive. Je peux prendre la parole ? Oui. J'attendais mon tour. Je suis là.
Mettez-vous debout.
Alors moi, je travaille à l'UDAF de l'Essonne et j'avais deux questions par rapport au mandat judiciaire dans le cadre de nos fonctions de DPF. La première, et ça fait écho un peu à l'intrusion dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que la visite à domicile, puisque ça a été le débat à un moment donné dans le service, est obligatoire dans le cadre du mandat ?
Je dirais qu'elle est indispensable parce que vous êtes peut-être les premières à entrer. Et c'est vous qui allez pouvoir nous dire, il n'y a pas le nombre de couchages adéquates. Par exemple, moi j'ai une famille, là, ils sont trois, il n'y a que trois chaises. On est bien d'accord, mais c'est vous qui allez pouvoir nous dire, il manque ça et ça. Ou qui allez pouvoir nous dire, en fait, l'appartement c'est un vrai courant d'air, ça explique la note de chauffage parce que toutes les vitres sont pétées. Ou il y a de la moisissure partout, ou les gens baissent les bras. Voilà.
Alors moi, je suis d'accord hein, sur le principe.
Voilà.
Et pour le
mais
coup,
ça, je dirais, c'est pas dans la décision du juge des enfants. Mmh. Voilà. Mais l'œil judiciaire, il est partout. C'est comme une mesure éducative où les parents s'opposent à ce que l'enfant soit vu par le travailleur social. Ben, c'est vite vu. Hein. Il est scolarisé, il est à la crèche. Et bien, il y a le mandat judiciaire. Mmh. Voilà.
Et alors, ma deuxième question, parce que du coup, ça va nous permettre de répondre dans le cadre du service à plein d'interrogations. Du fait qu'on fasse partie intégrante de la protection de l'enfance, est-ce qu'on peut exercer une mesure sans gestion de prestations familiales? Il n'y a pas de droit ouvert?
Ah ben non. Ce qui conditionne votre mandat, c'est la perception.
J'ai mon chef de service ici, c'est pour ça que j'en profite un peu.
Ah mais ça, alors... Parce qu'au niveau de la mesure judiciaire d'investigation éducative, nous indiquons bien que c'est les prestations sociales, familiales et autres allocations auxquelles l'enfant ouvre droit, y compris majeur de moins de 20 ans.
Alors voilà, nous, on a des mesures qui s'exercent sans gestion de prestations familiales.
Est-ce qu'il y a la possibilité d'ouvrir des droits? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a l'idée de la SF qui peut arriver le mois prochain? Est-ce qu'il y a... parce que si c'est 8 mois sans PF, non.
Mais vous gérez quoi?
Alors, pas de façon imminente. Enfin, je pense à un dossier éventuellement. Et on a une deuxième mesure. Il n'y a pas de possibilité d'ouvrir de droit aux prestations.
Mais non, il n'y a plus de mesure.
Moi, il m'est arrivé dans une situation d'une maman itinérante dont je ne savais pas du tout quel était le statut administratif d'ordonner une mesure judiciaire d'annulation du budget familial pour espérer faire quelque chose. Et en fait, c'était l'UDAF à qui j'avais confié cette mesure, qui m'a dit on peut rien faire, il n'y a pas de droit. Ben, j'ai fait la main levée de la mesure en indiquant qu'il n'y avait pas d'ouverture de droit. Voilà. Mais je ne vois pas comment vous pouvez faire une mesure d'aide à la gestion du budget familial sans perception de prestations.
On a une dernière question et ensuite on passe à...
C'était un constat. Nous, UDAF 76... un des juges a fait le choix de systématiquement dissocier la MAJJBF de l'AMO, par exemple. Donc, elle nous audience jamais ensemble. Parce qu'elle estime, d'abord, c'est un jeune juge, au départ, elle nous disait d'ailleurs que pour elle, on ne rentrait pas dans le cadre de la protection de l'enfance.
D'accord. S'il y a un maintien sous condition dans le cadre d'une AMO, avec obligation d'activité extrascolaire, qui finance?
Et de la même façon, dans une audience, les parents étaient séparés et je lui faisais la réflexion que ça m'embêtait d'évoquer le budget devant le papa. Oui. Elle m'a dit non, c'est ses enfants, il a à savoir les ressources.
On arrête là et on passe à notre prochaine intervention. Merci, madame. Merci beaucoup.